le magazine des Nations Unies.
Meeting de l'UDPS la semaine dernière à Kinshasa, la MONUSCO se félicite du bon déroulement de la manifestation. Dans cette édition, nous entendrons la porte-parole de la mission. Et puis, lancement de la semaine africaine de vaccination, le programme élargi de vaccination avec l'appui des partenaires comme l'OMS et l'UNICEF sensibilise parlementaires et pouvoirs publics et privés. Objectif, obtenir leur appui pour sauver des vies d'enfants congolais par la vaccination. Le stress est un danger permanent et les plus grands de ses méfaits, c'est d'affaiblir le système immunitaire et de rendre ainsi l'organisme humain propice à toutes les maladies. Dans cette édition, la conseillère nationale en gestion de stress des Nations Unies RDC nous fera le point de ce phénomène.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à UN Mag. L'actualité politique a été dominée cette semaine, entre autres par le meeting du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, à la place Saint-Thérèse à Kinshasa. La MONUSCO se félicite du bon déroulement de cette manifestation. Elle pense que le caractère pacifique de l'événement doit servir d'exemple pour créer la confiance entre l'ensemble de parties prenantes au processus électoral. Je vous propose d'écouter la porte-parole de la mission, Florence Marchal, dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Plusieurs choses par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons pu constater que en cette année électorale, le débat avait pu avoir lieu et que les partis avaient pu mener leur campagne de façon pacifique. Donc la décision du gouverneur d'autoriser cette réunion politique est une décision que nous saluons, tout comme nous saluons le caractère pacifique de la réunion politique de hier. Nous pensons que cette décision devrait permettre de rétablir la confiance entre l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. Concernant notre présence en partie nous avions effectivement des équipes qui étaient déployées sur le terrain, comme nous le faisons à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce genre.
Restons encore à la MONUSCO pour parler des droits de l'homme cette fois-ci. Les violations des droits de l'homme ont connu une légère baisse en mars 2018 en RDC, avec 406 cas des violations par rapport aux 525 cas enregistrés en février dernier. Par contre, le pays a eu une augmentation des violations de droits de l'homme au premier trimestre 2018, soit 1625 cas, alors qu'au premier trimestre 2017, il n'avait connu que 1435 violations. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rendu public ce mercredi à Kinshasa. D'autres détails de ce document dans ce condensé que nous propose Jean-Pierre Elali Ikoko.
Selon le directeur du Bureau conjoint, Abdoul Aziz Tchoyi, les agents étatiques, c'est-à-dire des militaires FRDC, des éléments de la PNC et de l'ANR, sont responsables à près de 70% de violations, alors que 30% ont été l'œuvre de groupes armés. En revanche, les groupes armés sont auteurs de 53 victimes d'exécutions sommaires contre 31 victimes d'exécutions extrajudiciaires dans les rangs des forces de sécurité. Les mêmes rapports soulignent que 75% de ces violations ont été commises dans les provinces affectées par les conflits. C'est notamment le Nord Kivu, suivi du Sud Kivu et du Kasaï. D'autres tendances concernent les violations des libertés fondamentales, 19 cas au total, essentiellement liés à des restrictions de l'espace démocratique dans le pays. Enfin, lutte contre l'impunité. Le bureau conjoint dit avoir continué d'appuyer les juridictions militaires. Au moins 4 militaires des FRDC et 10 éléments de la PNC ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national.
La Cour pénale internationale, CPI, sera compétente d'entamer des poursuites à l'encontre des personnes impliquées dans les crimes d'agression des États à partir du mois de juillet prochain. Annonce faite par le chargé de sensibilisation pour la CPI en RDC, Patrick Tibouy, c'était le mercredi dernier à Goma, à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du statut de Rome. Daniel Tambinzoni.
Le statut de Rome portant création de la CPI avait été adopté le 17 juillet 1998 et mis en vigueur à partir du 1er juillet 2002. Depuis sa création, la CPI n'avait pas encore la compétence de poursuivre les auteurs des crimes d'agression des États. Elle le sera en juillet prochain. Ceci est une disposition voulue par les États partis qui avaient convenu que 20 ans après, la Cour soit revêtue de cette compétence. Avec cette nouvelle compétence, a dit le sensibilisateur de la CPI en RDC, la Cour ne va pas poursuivre les États, même pour des crimes d'agression, mais ne seront poursuivis que les individus, les personnes physiques et spécifiquement la personne qui avait le pouvoir politique ou militaire au sein de l'État en en question pour commettre l'acte d'agression concerné. Depuis 2002, la Cour engageait des poursuites seulement pour 3 des 4 crimes qui entrent dans ses compétences, à savoir crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Patrick Tshibouyi a aussi reconnu que la CPI est confrontée aux nombreuses difficultés dans l'exécution des mandats d'arrêt, ceci n'ayant pas une force coercitive.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le stress est un danger permanent que chacun traîne dans son quotidien et dont les conséquences, s'il n'est pas bien géré, peuvent être désastreuses. Sylvie Wiranda-Kavira est conseillère nationale du personnel en gestion du stress dans le système des Nations Unies en RDC. Elle nous parle ici de ce phénomène dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Sylvie Wiranda-Kavira, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
C'est quoi le stress ?
Le stress, il va être défini de différentes façons. Mais la plus simple définition qu'on puisse donner au mot stress, c'est que c'est une réponse non spécifique du corps face à des menaces qui peuvent être internes ou extérieures à l'individu et qui vont demander à cet individu de développer des mécanismes de gestion afin de surmonter le problème.
Oui, ça c'est une définition un peu scientifique, mais alors comment on peut reconnaître le stress? Quels sont les signes qui peuvent déterminer que ce monsieur en face de moi est stressé?
Les signes vont être énormes, mais on va les grouper à 4. Ils vont se manifester sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur le plan comportemental et sur le plan émotionnel. Sur le plan physique, il y aura des changements dans le fonctionnement physique du corps. L'individu peut être en transpiration abondante, peut vivre des vertiges qui ne s'expliquent pas, des palpitations du cœur, de la pression artérielle élevée, de la respiration haletante et beaucoup d'autres signes physiques qui vont se présenter mais de façon vraiment inhabituelle et qui devraient normalement nous mettre sur un alerte.
Alors du point de vue émotionnel?
Du point de vue émotionnel, l'individu va expérimenter du choc émotionnel, il va être colérique, il va vivre du chagrin et de la douleur pour un petit rien. Des réactions dépressives, de l'accablement et de l'abattement. Ça veut dire que l'individu va être abattu pour un petit rien. Et généralement, nous ne comprenons pas ce qui ne va pas. Nous allons rester dans les lamentations au lieu de chercher de l'aide. Alors, sur le plan comportemental, et là, chacun peut faire son propre diagnostic parce que les signes sont tellement visibles qu'ils peuvent être aussi remarqués même par l'entourage. Et donc, on va noter des comportements et des agissements inhabituels, des habitudes alimentaires inhabituelles, une baisse dans l'hygiène personnelle, des replis sur soi, tendance à s'isoler, du silence prolongé, inhabituel. Et donc, ces symptômes vont se vérifier sur une certaine durée et sur une répétition.
Quels sont les facteurs ou alors les causes du stress finalement?
Alors le stress, ça pourra peut-être vous étonner, il va venir de plusieurs facteurs qui vont favoriser évidemment l'installation du stress. Les facteurs peuvent être personnels, ça veut dire liés à la propre personne qui subit le stress. Les facteurs peuvent être liés à son travail pour les travailleurs, les facteurs vont être liés à la famille, et encore que nous sommes en Afrique où la famille c'est tout ce que nous avons de plus cher, et donc leurs demandes, leurs besoins deviennent nos demandes et nos besoins. Les désirs et le besoin de satisfaire à tout prix le besoin de membres de famille va nous mettre sur une pression, et cette pression, tant qu'on n'arrive pas à la baisser, on peut vivre un stress permanent. Alors, le quatrième angle, c'est que le stress peut venir des facteurs environnementaux. Nous vivons dans un environnement tel que on vit de l'insécurité, on vit des coupures de courant, des coupures de l'eau, de l'insalubrité, de bruit nocturne. Et donc, un environnement malsain, il est suffisant à lui seul de nous mettre sous stress.
Un exemple d'un facteur personnel.
Ça peut être ma façon de voir les événements difficiles. Ça peut être ma façon d'interpréter les événements, ma façon qui n'a rien à voir avec l'événement en soi. C'est par exemple deux personnes qui se promènent sur la route un vétérinaire et un éleveur des reptiles. Quand tous les deux vont rencontrer un serpent, sauvage ou pas du tout très très venimeux, l'éleveur des reptiles va trouver une occasion d'enrichir son jardin des reptiles, tandis que le vétérinaire, il va trouver une occasion de renforcer ses connaissances sur les reptiles. Et donc, l'interprétation que je me fais de l'événement peut me stresser si elle est négative, et une autre personne qui regarde le même événement va ne pas subir le même poids de l'événement.
Le stress a certainement des conséquences.
Beaucoup de conséquences, et sur plusieurs plans. Généralement, sur le plan physique et sur le plan physiologique, sur le plan psychologique aussi. Le stress va nous empêcher de vivre normalement notre vie de chaque jour. Le stress va favoriser plusieurs maladies, et ces maladies, on va les appeler des maladies psychosomatiques. Et donc, l'individu sous stress va être victime de maladies qui ne seraient pas normalement maladies si la personne n'était pas sous stress. Et donc, il y aura dysfonctionnement complet de l'organisme. Sur le plan physiologique, il y aura des maladies dues au stress ou favorisées par le stress. C'est par exemple des cancers qui vont être entretenus par le stress. C'est des gastrites avec ulcères qui vont être entretenus par le stress. De l'hypertension qui va être favorisée par le stress. Et des accidents cardiovasculaires, parce que le plus grand des méfaits du stress, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Et donc, toutes les maladies sont les bienvenues dans le corps de quelqu'un qui est sous stress chronique.
Mais le stress, ça peut se gérer quand même.
Le stress, il peut se gérer. Il peut se gérer sur généralement deux plans. Sur le plan personnel, ça veut dire je me décide de ne pas vivre sous stress. Et ça, c'est à travers des exercices de sport, c'est à travers une bonne hygiène de vie, c'est à travers une bonne hygiène alimentaire, c'est à travers une auto-formation, c'est à travers un regard positif que je porte sur les événements. Je refuse d'être fataliste, je refuse d'être négatif. Et sur le deuxième plan, ça va nécessiter l'aide d'une personne, d'une autre personne. Et cette personne peut être un ami, un collègue, un partenaire, un époux, une épouse, ou encore un professionnel de la santé mentale. Et ici, quand je parle de professionnel de la santé mentale, je cite les psychologues cliniciens et les psychiatres. Et donc, lorsqu'on est en situation de stress et qu'on a besoin de s'en sortir, ce n'est pas bon d'hésiter, de chercher de l'aide. Chercher de l'aide, c'est déjà une preuve qu'on est fort. On est suffisamment fort pour reconnaître ses limites et pour reconnaître le besoin qu'on a de gérer le problème qu'on est en train de vivre.
Oui, moi je reviens maintenant au premier plan, tel que vous décrivez là. Gérer le stress, c'est en fait être, disons, un sans-foutiste, quoi.
Non, pas du tout. Ça veut dire regarder les événements, les comprendre, les accepter et dire c'est un événement dont je n'ai aucun contrôle, je l'accepte, je vis avec et j'avance. Je ne m'en fous pas, parce que si tu t'en fous, tu seras dans ce qu'on appelle évitement du stress et non dans la gestion du stress. Dans la gestion du stress, il faut accepter l'événement, il faut comprendre l'événement et il faut vouloir dépasser l'événement. Alors, il y a des événements qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas éviter. Ce sont des accidents de route, ce sont des catastrophes naturelles, c'est une guerre qui commence, c'est un deuil, la mort d'un être cher. Ces événements, nous ne pouvons pas les contrôler. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les accepter, d'accepter que ces événements se soient produits et d'aller au-delà de ces événements. Alors, lorsque tu vas dire que je m'en fous, tu vas en souffrir parce que le stress, lui, va continuer à travailler dans l'organisme jusqu'à t'amener au stade du stress chronique et le corps va être en souffrance. Tout le système immunitaire ne va plus fonctionner normalement et tu seras victime de toutes les maladies psychosomatiques possibles.
Quelqu'un reçoit un coup de fil qui lui annonce une très mauvaise nouvelle et il en meurt. C'est quelqu'un qui a accumulé des stress, donc.
Une personne à qui on annonce la mort d'un être cher qui tombe à syncope et qui en meurt, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre. C'est possible que la personne avait déjà certaines maladies psychosomatiques et que la nouvelle n'a été que les déclencheurs, c'était le coup fatal. Aussi, c'est possible que la personne ignorait certaines maladies dont elle était victime et l'appel va être le coup fatal. C'est aussi possible que la personne n'a pas suffisamment des mécanismes de gestion des stress et donc soumis à un tel niveau de stress, c'est suffisant pour l'emporter. Mais aussi, c'est possible que la personne ne fait pas suffisamment attention aux recommandations. Quand je parle des recommandations ici, je parle des exercices physiques, de l'hygiène corporelle, de l'hygiène alimentaire. Et donc, le corps, il était déjà pas bien. La nouvelle n'a été que les déclencheurs et la personne en est morte. Mais aussi, c'est possible que c'est lié au type de personnalité.
Est-ce que le recours à des stimulants comme l'alcool, la drogue, la cigarette peut constituer une stratégie de gérer aussi le stress?
Déjà, parlons de la santé et de façon globale. Tous les spécialistes de santé, ils vont vous interdire tous ces stimulants. Ok? Et en gestion des stress, on ne recourt pas aux stimulants pour une simple raison. Les stimulants vont vous donner la sensation du bien-être, mais c'est juste une sensation, c'est pas le bien-être. Et donc, le recours aux stimulants est fortement prohibé, le recours à l'acte agressif aussi prohibé, parce que dans ces cas, vous serez en train d'éviter le stress et non de gérer le stress. Et lorsque vous évitez le stress, la nature, elle est tellement faite qu'elle va vous garder une bonne partie de ce stress quelque part et ça va continuer à vous détruire petit à petit et c'est une arme réelle et destructrice.
Alors, quel est le rôle d'un conseiller national en gestion du stress au sein du système des Nations Unies?
Merci beaucoup pour la question. Elle va faire le résumé de tous ces conseils dits. Le conseiller du personnel en gestion des stress pour les Nations Unies, c'est d'abord un spécialiste de santé mentale et qui a pour rôle essentiellement le bien-être du personnel. Et donc, la personne va pas s'occuper du delivery, ça veut dire des résultats que chaque individu va faire individuellement, mais la personne va s'occuper du bien-être de chaque individu personnel du système des Nations Unies afin que les résultats attendus par les Nations Unies soient positifs et que chaque individu, chaque personnel des Nations Unies soit efficace dans ce qu'il fait. Et donc, le personnel des Nations Unies aura pour rôle de s'assurer que le problème individuel, le problème professionnel n'empêche pas l'atteinte des résultats attendus par tout un système. Nous sommes dans un système avec une très très large diversité, des nationalités différentes, des races différentes, de sexes différents, de cultures différentes, des traditions différentes, des coutumes. Ça veut dire qu'on est au carrefour des différentes personnalités et le conseiller du personnel va essayer de concilier toutes ces différences en vue d'atteindre les résultats escomptés par les systèmes. Et ça, c'est mon rôle. Et j'encourage tout le monde à prendre conscience du fait que le stress est aussi tueur qu'un cancer, qu'un accident de circulation, que toutes les autres maladies et que la négligence ou la mésinformation sur les questions de stress peut être aussi dangereuse que le stress lui-même. Et donc j'encourage tous les collègues et tout le monde qui va m'écouter à prendre conscience qu'il y a un danger permanent que nous traînons avec nous et que ce n'est pas impossible de nous en débarrasser.
Sylvie Viranda Kavira, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ouvrons cette page par cette campagne de sensibilisation à la non-violence en période électorale organisée à Calémie. Dans le cadre de cette campagne, un débat sur les thèmes collaboration jeunesse-police a eu lieu le 20 avril dernier, organisé par la section de l'information publique de la MONUSCO et le conseil de la jeunesse du Tanganyika. Environ 80 jeunes leaders d'associations et mouvements des jeunes, dont 16 femmes du territoire de Calémie, y ont pris part. Ce débat a été animé par UNPOL, la police de la MONUSCO, en collaboration avec la police nationale congolaise, PNC. La gestion des manifestations en période électorale, la problématique des relations police-jeunesse, le non-respect des droits humains ont été parmi les sujets débattus. De Calémi, faisons un saut à Kananga dans la province du Kasaï central pour parler d'une session de formation organisée du 23 au 24 avril 2018 par la CENI et le PNUD avec l'appui des partenaires techniques et financiers dont la MONUSCO. Cette session a porté notamment sur la gestion de la logistique électorale et des archives. Une cinquantaine de personnes, des logisticiens de la CENI entre autres, ont participé à cette formation. Enfin, rendons-nous au nord Ubangi avec le ACR à travers son partenaire, Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement, ADES. Le ACR a donc remis jeudi dernier aux autorités locales du village Inke une école primaire construite en dur selon un communiqué de la sous-délégation de cette agence onusienne à Gbadolité. Les travaux de cet ouvrage ont été réalisés par un autre partenaire logistique du ACR pour un coût estimé à 35 000 dollars américains. Le village Inke accueille depuis 2013 plus de 15 000 réfugiés centrafricains et cet ouvrage entre donc dans le cadre du renforcement de la cohabitation pacifique entre cette communauté des réfugiés et les autochtones.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche est Madame Elisabeth Mukamba, elle est directrice adjointe du programme élargi de vaccination. Ce programme a lancé lundi dernier la semaine africaine de la vaccination avec, à la clé, une campagne de plaidoyer auprès de pouvoirs, tant publics que privés, en vue d'un appui accru aux activités de vaccination qui protègent des milliers d'enfants congolais. C'est le cas des parlementaires dont l'appui serait au niveau du renforcement de la ligne budgétaire allouée à ce secteur. Madame Elisabeth Mukamba répond aux questions de Jean-Pierre Elali. Coco.
Madame directeur de PEV, vous avez fait venir les réseaux de parlementaires qui s'occupent justement de la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous les avez fait venir aujourd'hui?
Si nous avons fait recours aux parlementaires, c'est parce que déjà les parlementaires sont les représentants de la population, de la communauté. Ce sont les élus du peuple qui portent le message par rapport à tous les besoins du peuple. Nous savons qu'aujourd'hui, nous lançons la semaine africaine de la vaccination qui veut mettre un accent sur l'importance de la vaccination. Donc, comme le dit le thème de cette année, les vaccins, ça marche, faites votre part. Ceux qui peuvent mieux porter encore ce message et qui peuvent encore être plus sensibles par rapport aux défis et aux attentes du programme, ce sont les parlementaires. C'est comme ça que nous avons pensé que pour cette journée de lancement, nous avons voulu travailler avec eux pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner davantage, être sensibilisés par rapport à cet aspect de la vaccination.
Et une préoccupation, c'est que le financement de la vaccination est assez faible par le gouvernement de la RDC. On a parlé tout à l'heure de 6%. Quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de ces financements par rapport au travail que vous faites au niveau du PEV?
Effectivement, nous avons montré que depuis 2012, le gouvernement s'est engagé à financer la vaccination. C'est vrai qu'on a atteint des niveaux de décaissement des fonds importants. Il y a déjà des efforts qui ont été faits, notamment l'inscription d'une ligne budgétaire en rapport avec la vaccination, ce que nous apprécions. Il y a chaque année un montant qui est arrêté pour appuyer les activités de vaccination. Mais c'est vrai qu'il reste encore des défis énormes, c'est-à-dire arriver à décaisser, à libérer le budget voté annuellement. Non seulement là, mais augmenter la part gouvernement aussi dans le financement des activités de la vaccination. Nous sommes conscients qu'effectivement les défis par rapport à notre pays sont énormes, mais nous reconnaissons aussi que c'est une intervention de santé publique de haut impact. La vaccination protège les enfants. Et lorsque nous regardons un peu dans l'historique des maladies contre lesquelles on vaccine, l'évolution de l'épidémiologie par rapport à ces maladies, on reconnaît qu'il y a effectivement une chute par rapport à la survenue de ces maladies-là. Donc on a moins de cas de rougeole. C'est vrai qu'il y a par là encore des foyers d'épidémie, mais il y a moins de cas de rougeole, il y a moins de cas de polio. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras sur les derniers kilomètres qui nous permettent d'atteindre les objectifs, notamment d'éradication de la poliomyélite, d'élimination de la rougeole, du tétanos et de toutes les autres maladies qui peuvent être évitées par la vaccination.
Pour terminer, madame, un mot sur la vaccination des routines.
Je pense que le socle de la vaccination, c'est la vaccination de routine. La vaccination de routine, c'est cette vaccination qui fait que les mamans amènent les enfants chaque mois depuis la naissance, qu'elles les amènent pour recevoir un certain nombre d'antigènes. Et c'est celle qui permet tout justement de tenir l'immunité nécessaire pour protéger la population. Cette vaccination a un coût. Et au fur et à mesure que que nous sommes en train d'introduire les vaccins, les nouveaux vaccins, c'est-à-dire des vaccins qui permettent de lutter efficacement contre des maladies qui tuent les enfants aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous introduisons ces vaccins dans la vaccination de routine, il y a un coût. Les montants vont croissant. C'est ainsi que nous pensons que, en sensibilisant sur l'importance de la vaccination de routine et la nécessité de financer à hauteur cette vaccination de routine, nous pouvons atteindre les objectifs de développement durable, notamment en matière de la vaccination de la santé.
Il faut le financement du gouvernement, mais aussi le financement des partenaires. L'année passée et l'année 2018.
En fait, nous apprécions l'appui des partenaires dans ce domaine, mais il est un fait, c'est que la vaccination, c'est l'affaire de l'État. C'est l'affaire de souveraineté de l'État. Donc, et ces financements des partenaires sont soumis à d'énormes exigences. Donc, je pense que déjà, si la part du gouvernement est suffisamment élevée, je pense que les partenaires viendront s'inscrire davantage sur les efforts du gouvernement pour financer tout justement cette vaccination-là.
Merci, madame.
Ok, merci, monsieur.
Plus de 3 millions de dollars américains, c'est le montant d'un financement de deux projets du PNUD en faveur de la population du Kasaï central affectée par les violences. Un atelier sur la réintégration socio-économique des personnes affectées par ces violences a été organisé la semaine dernière à Kananga dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Une vingtaine d'ONG locales y ont participé. Eric Bidoro, chargé local du projet de stabilisation communautaire du PNUD, a expliqué cette démarche au micro de François Kadima.
Pendant la phase des crises, il y a eu l'aide humanitaire, l'assistance. Et nous, ce qu'on a dit, nous sommes une agence de développement, pas une agence vraiment d'assistance. C'est comme ça que l'appui que nous voulons apporter se fait à travers la réhabilitation des infrastructures socio-économiques qui ont été affectées, touchées pendant les conflits. La population doit travailler, les bénéficiaires sont appelés à travailler. Ils travaillent pour recevoir un salaire. On les engage à travers des activités, on paye leurs prestations et au-delà de ces paiements-là, on les accompagne, on les sensibilise sur l'épargne et puis au-delà de cette épargne, on les sensibilise pour se mettre en groupe, travailler ensemble pour pouvoir développer ou initier une activité économique. La première intervention est concentrée, focalisée sur les Kasaï centrales. Nous avons un premier projet de 1 million 15. Ça, c'est des fonds propres du PNUD. Et on a un autre projet avec le japonais pour un équivalent de 1 500 000. Les deux enveloppes vont nous permettre de pouvoir démarrer les activités. Déjà, on a ciblé le territoire de Dibaya et la commune de Nganza pour la première intervention. Pour l'intervention, les fonds supplémentaires japonais, on va essayer d'identifier les nouveaux territoires dans lesquels on pourra intervenir pour un autre groupe de bénéficiaires.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Et la question de ce dimanche concerne la tenue des élections en RDC. Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, apporte un éclairage.
Je suis journaliste indépendant et collabore avec Abari Kwetu. Je voudrais, Madame Florence, que vous puissiez nous éclaircir, chiffrer ou évaluer l'appui de la MONUSCO au processus électoral depuis la publication du calendrier électoral et si vous croyez en la tenue des élections cette année.
Oui, nous croyons en la tenue des élections cette année. Le Conseil de sécurité y croit. Il y a un accord politique qui a été signé par tous les partis politiques au Congo. Il y a un calendrier électoral, vous y avez fait allusion. Il y a une date, celle du 23 décembre. Et nous avons un mandat qui est celui d'accompagner la mise en œuvre de cet accord et du processus électoral. La représentante spéciale du secrétaire général a demandé à toutes les équipes de se mobiliser afin de pouvoir permettre la tenue de ces élections, que tout ce que la MONUSCO pourra faire afin que ces élections puissent avoir lieu, puisse être fait. De façon concrète, on parle d'un côté de bons offices, des actions menées par la représentante spéciale pour établir la confiance entre les différentes parties prenantes, et d'autre part, une assistance technique. Nous avons donc des équipes qui travaillent avec la CENI, qui apportent des conseils, et le soutien logistique. Dans le calendrier qui avait été présenté par la CENI le 5 novembre, il était indiqué que la MONUSCO devait présenter à son tour un plan de soutien logistique au processus électoral avec une date limite qui était le 30 novembre. Ça a été fait. Le 30 novembre, nous avons remis notre plan de soutien logistique et depuis lors, nous nous préparons dans la perspective de ce soutien à la CENI. Le soutien qui est prévu serait un soutien qui serait similaire à celui que nous avons apporté à la CENI lors de la révision du fichier électoral, c'est-à-dire un soutien pour le déploiement du matériel électoral, à la fois de Kinshasa vers les grandes villes du pays, ensuite des grandes villes du pays vers les antennes les plus difficiles d'accès.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Je suis Clément Chimanga Loabala. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une entreprise au nom de Satelcom. Et de là, j'ai quitté pour embrasser Number One et également une entreprise toujours sur la vente des véhicules. Et de là, j'ai quitté pour commencer à Radio Capi où je suis technicien en informatique, dans les départements de la technique bien sûr. Et mon cursus, j'ai fait mes études à l'école Les Compagnons à Limité, à l'école supérieure de formation de cadre anciennement appelée Pigé à Gombe. Mon travail consiste généralement à assister les utilisateurs sur l'outil informatique, que ce soit du côté logiciel ou matériel, assurer les déménagements des utilisateurs, recevoir quotidiennement les appels des utilisateurs, écouter les problèmes posés, analyser, assister téléphoniquement ou parfois physiquement si nécessaire. Et je dirais réparer des machines, préparer des machines pour installer et parfois même dispenser des formations aux utilisateurs sur l'utilisation de certains logiciels. En dehors de cela, je résous également des problèmes, des bugs fréquents d'application et assurer parfois l'installation des logiciels et des équipements informatiques, faire la maintenance des applications, je dirais mise à jour des antivirus et organiser par moment la formation sur l'utilisation de certains logiciels nouvellement acquis, intervenir et trouver des solutions aux divers problèmes utilisateurs. Il m'arrive parfois de faire régulièrement le remote control des imprimantes pour connaître l'état exact des cartouches en vue de les remplacer lorsqu'elles sont épuisées. Configurer également ou faire les mappages des imprimantes sur les profils des utilisateurs, ainsi que la configuration Outlook. Je dirais en gros, mon travail consiste à assurer le bon fonctionnement de l'outil informatique au sein de la Radio Capi. Voilà. Mon temps libre, généralement les week-ends lorsque je suis à la maison, je prends 2 ou 3 heures à pouvoir faire mes documentations, je me documente, excepté peut-être les responsabilités qu'on peut avoir peut-être à l'église ou différents programmes qu'on peut avoir, mais je ne manque pas de passer au moins 2 heures ou 3 heures du temps devant la machine pour lire mes tutoriels, pour me documenter davantage, essayer un peu d'approfondir mes connaissances. Ce que je fais tous les matins, c'est la marche et j'ai fait également des exercices physiques les matins pour essayer un peu de bien entretenir mon corps. Mes préférences, j'aime le foufou au pondo et au poisson, voilà. L'avenir, ce que j'envisage, c'est de devenir un administrateur en réseau informatique et de créer également, je dirais, une société de transport à Kinshasa. Donc cela va quand même assurer le transport à tous les Kinois et à tous les Congolais, voilà. Donc, je vous remercie.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Capi.
Retenez ces rendez-vous de la semaine qui commence déjà ce 1er mai. C'est mon anniversaire, mais ce qui est important ici, c'est que c'est la journée du travail. Voilà. Et le jeudi 3 mai, rappelons que c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Le samedi 5 mai, double commémoration, journée mondiale de l'hygiène des mains et journée internationale de la sage-femme. Voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salamar, mise en onde par Polydor Basunga, à la coordination, reportage et réalisation Jean-Pierre Elali Coco, au reportage Honoré Missenga, sous la supervision de Julien Niamouini. À bientôt sur Radio Capi. Ciao.